Audiolib présente « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple » de Didier Ribon, lu par Irène Jacob. Première partie. Chapitre 1. Je ne serais donc allé à Fismes que deux fois. À un moment où je pensais que cette commune de quelques milliers d'habitants, située à 30 kilomètres au nord de Reims, allait devenir au cours des mois et peut-être des années à venir l'un des cadres de mon existence. Je me disais que je visiterais un jour l'hôtel de ville, qui, à peine édifié en 1912, avait été presque totalement détruit pendant la Première Guerre mondiale, puis reconstruit au milieu des années 1920 dans le même style Renaissance tardive qu'auparavant. Que je marcherais derrière ce bâtiment étrangement solennel au centre d'un décor ni tout à fait villageois, ni tout à fait urbain, sur la place du marché bordée de magasins divers et de maisons hautes, dont certaines affichent fièrement des ornementations art déco, semblables à celles que l'on trouve dans le centre de Reims, puisqu'édifiées à la même époque et dans les mêmes circonstances. Je m'imaginais entrant dans la maison de la presse-librairie papeterie Cadeau, dont la vitrine présentait, en un déroutant bric-à-brac, les derniers volumes des œuvres complètes de Faulkner, récemment parus dans la bibliothèque de la Pléiade, avec un panneau promotionnel des éditions Gallimard annonçant un prix de lancement, au milieu d'une profusion de livres pratiques, de guides touristiques et gastronomiques, de cartes routières et de romans de gare en format de poche, attirant le regard par leur couverture criarde, et achetant peut-être un magazine ou le journal régional pour ma mère, les feuilletant quelques instants dans le café d'en face, où je resterai une heure ou deux pendant qu'elle ferait une sieste avant de lire le livre que j'aurais apporté avec moi. J'envisageais de suivre les rues, qui deviennent assez vite et sans transition des routes de campagne, ou de marcher jusqu'au pont de Fismettes, dont je venais d'apprendre, en cherchant des informations sur la configuration et l'histoire de ces lieux, qu'il avait été détruit en 1918, au cours de combats acharnés au corps à corps, à la baïonnette et même au lance-flammes, entre les troupes allemandes et un bataillon de l'armée américaine, et avait coûté la vie à un nombre effroyable de soldats des deux camps. Un nouveau pont, avec des colonnes surmontées de statues, avait été offert par l'État de Pennsylvanie en 1928 pour servir de mémorial, un parmi tant d'autres dans cette région, élevé aux victimes de cette folie meurtrière. Comment imaginer que les alentours de ce bourg, aujourd'hui si calme, si paisible, où régnait dans l'après-midi de ces jours d'été un silence quasi total, à peine rompu de temps à autre par le moteur d'une voiture, d'un camion ou d'un tracteur, avait été le théâtre, un siècle plus tôt, d'un tel déchaînement de bruit et de fureur, de violence et d'horreur pendant plusieurs années, et jusqu'aux derniers mois, jusqu'aux derniers jours, jusqu'aux dernières heures d'une boucherie que le grand Jaurès avait tenté en vain d'éviter, payant de sa vie la lucidité et le courage qui caractérisaient son engagement. Ce pont mémorial avait été à son tour détruit lors de l'offensive allemande en 1940, puis reconstruit à l'identique dans les années 1950. Il me faudrait aller voir ce monument, qui sur les photos semble à la fois si beau et si triste. Existe-t-il des documents ou des ouvrages évoquant de manière plus générale l'histoire de ce gros village et des communes des environs? J'irai une prochaine fois me renseigner à la librairie papeterie. Tous ces projets sont restés à l'état de rêverie. D'une certaine manière, Fismes n'aura été pour moi qu'un nom, un site éphémère dans mon espace mental. Je l'ai dit, je n'y suis allée que deux fois, deux jours consécutifs. C'était dans le courant d'un mois d'août. À ce moment-là, j'imaginais que j'allais être amenée à y venir régulièrement pour rendre visite à ma mère, après que mes frères et moi l'aurions installée dans la maison de retraite, où nous étions enfin parvenus à lui trouver une place disponible. Nous pensions qu'il n'y avait pas d'autre solution. Nous en parlions avec elle depuis un certain temps déjà. Au début, il avait été question d'un studio dans une aile d'une maison de retraite réservée